au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Marianne Durand-Lacaze.
Il est des noms que l'histoire a peu favorisés, celui de Vic d'Azyr particulièrement. Il m'a souvent été donné de le constater quand je le prononce devant des amis. Rares sont ceux qui le relèvent, et encore plus rares, ceux qui savent préciser le siècle de sa naissance ou le rôle qu'il a joué. Quelle est donc cette figure de la médecine trop oubliée de l'histoire ? Yves Pouliquen, de l'Académie française, médecin, ophtalmologiste, chirurgien, endosse le rôle de l'historien sur les sujets qui le passionnent. En 1999, il avait écrit « L'histoire d'un oculiste au temps des Lumières, Jacques Daviel », chez Odile Jacob. Il s'est intéressé à la médecine du grand siècle, avec Madame Sévigné en 2006, un autre de ses livres. Cette fois, il a dressé le portrait de Félix Vic d'Azyr, ce médecin du XVIIIe siècle, novateur, grand savant, son prédécesseur à l'Académie française. L'homme était considéré de son vivant à l'égal de Montesquieu, de Rousseau, de Voltaire ou même de Buffon. J'accueille aujourd'hui à Canal Académie Yves Pouliquen pour nous parler de son livre « Félix Vic d'Azyr, les Lumières et la Révolution » publié chez Odile Jacob en 2009. Pourquoi et comment s'est-il intéressé à ce digne représentant de l'esprit des Lumières, médecin de la reine Antoinette, et qui vécut de très près la Révolution ? L'histoire d'un savant, d'un médecin, intime du pouvoir, un prédécesseur qui ne pouvait probablement pas laisser indifférent Yves Pouliquen. Yves Pouliquen, bonjour.
Bonjour.
Présentez-nous ce jeune médecin ambitieux qui vient du Cotentin et qui dérange par à la fois ses capacités, ses facultés et puis ses initiatives.
Oui, probablement d'ailleurs que lui-même ignorait ce qu'il ferait parce qu'il est né d'un milieu assez modeste. Son père était médecin à Valognes, dans le Cotentin. Et lorsqu'il est né et qu'on l'a mis à l'école, au collège de Valognes, probablement que ses éducateurs et son père n'avaient d'autre ambition que d'en faire un médecin valognais. En réalité, je crois que le personnage, au début, n'était pas très orienté dans sa vocation, puisqu'il a même pensé à la philosophie, peut-être même à la théologie, et pourquoi pas entrer dans les ordres. En réalité, je crois que son père a beaucoup insisté pour qu'il s'oriente vers la médecine. Et là, son père ne savait pas qu'il le perdrait pratiquement à jamais. Car très rapidement, après un court séjour à Caen, où il côtoie Laplace d'ailleurs, il se retrouve à Paris. Et à Paris, il est pris d'une frénésie de travail qui est tout à fait exceptionnelle. Et là, se dessine déjà, je crois, tout son avenir parce que très jeune, il est remarqué par ses maîtres comme un être très intelligent, très érudit, ne négligeant rien, pas seulement la médecine, mais aussi la chimie, la physique, les mathématiques, s'intéressant à tout, comme on le faisait à l'époque d'ailleurs, et surtout à l'anatomie.
Ah, ça, c'est un peu particulier pour l'époque.
Oui, alors l'anatomie est tout de même la grande science médicale de l'époque. Elle était surtout celle des chirurgiens. Lesquels chirurgiens étaient, eux, très efficaces à l'époque, alors que les médecins l'étaient peu. Or, les chirurgiens l'étaient dans un sens, c'est que lorsqu'ils avaient des blessés, il y avait des os qui étaient rompus, il y avait des organes qui étaient altérés. Tandis que les médecins s'adressaient à la maladie sans, finalement, connaître aussi bien que les chirurgiens l'anatomie. Et lui a une vision. Une vision que, d'ailleurs, Antoine Petit, son maître, remarque tout de suite.
C'est lui qui va le prendre sous son aile.
Il a une vision globale de l'anatomie, non seulement celle de l'homme, assortie de la raison des organes, de la physiologie, et aussi de l'inscrire dans celle de tous les êtres vivants.
Il a cette volonté, c'est une grande ambition scientifique.
Une grande ambition, c'est étonnant, je dirais que c'est même un des éléments les plus étonnants de cet homme, de ce jeune homme en quelque sorte, qui déjà à 23-24 ans a fixé son programme. Il veut étudier l'anatomie des animaux, l'anatomie humaine, et en faire une sorte de synthèse allant jusqu'à imaginer qu'on puisse expliquer l'âme et la pensée par l'anatomie et la physiologie, ce qui est quand même tout à fait extraordinaire, à la fin du XVIIIe siècle. Certes, on est au siècle des Lumières. Il en est parfaitement imprégné. Il est un homme des Lumières. Il sera d'ailleurs un très grand encyclopédiste. Mais très jeune, il est déjà tout à fait remarquable par cette ambition. Une ambition d'ailleurs qui va le mettre très rapidement au contact de l'Académie des sciences, puisqu'il y rentre en 1774, il est né, si je ne m'abuse, en 48, et il rentre à l'Académie des sciences avec des rapports sur l'anatomie des oiseaux, sur l'anatomie des poissons, et ensuite il va compléter ses rapports par des travaux tout à fait extraordinaires.
Alors on voit qu'il a l'air de concevoir une œuvre médicale, un peu à la manière d'un artiste qui conçoit son œuvre.
Et une œuvre totale.
Totale, avec cette passion pour l'anatomie comparée que
Absolument.
Vous venez de nous expliquer.
Cette passion d'ailleurs, ça va être, je dirais, la définition de son existence et de son génie.
Alors il entre comme anatomiste oui. au Jardin du Roi.
Oui, et... pas au Jardin du Roi. Non. En plus, il a une ambition, c'est de transmettre son savoir. Donc très jeune, il va faire des cours d'anatomie et les étudiants l'adorent parce que c'est très, très, très révolutionnaire car il évoque au travers de l'anatomie la fonction et la fonction de la vie, la mort, etc. Et c'est un très bon orateur. Il a un succès formidable et si formidable que les professeurs de la faculté s'en inquiètent et finalement l'excluent de la faculté. Alors là, il va y avoir un épisode malheureux, il va être malade, il va partir à Valognes, il va compléter ses travaux, revenir. Et quand il reviendra, il va faire un cours particulier à côté du Jardin des Plantes. Parce que Antoine Petit voulait le mettre professeur au Jardin des Plantes. Et là, malheureusement, c'est Portal qui aura la place et ce n'est pas lui. Mais il fera une école à côté. Et là, une école où il va se distinguer d'une façon époustouflante.
Le public vient,
grand public.
Y compris le grand public, voilà.
Et il a une notoriété à 25 ans, c'est en somme une vedette de Paris. Et il est une vedette par son talent oratoire, par sa pédagogie et par sa science.
Une pédagogie qui ne le lâchera jamais.
Jamais.
Parce que, comme vous venez de le dire, c'est un formidable pédagogue. Et tout au long de sa vie, il a eu le souci de cette médecine éducative. Vous parlez de son engagement éducatif.
Absolument, parce que dès le départ, pour lui, découvrir, parce que c'est un chercheur, découvrir les choses, ça sortit immédiatement du besoin de l'enseigner. Et il va faire une œuvre anatomique considérable. Il va faire un très grand traité d'anatomie qui ne sera jamais tout à fait terminé. Mais ce traité d'anatomie, qui traite de toute l'anatomie, y compris aussi du système nerveux, car ça a été l'un des premiers à fixer le cerveau, à le décrire et à faire des schémas extrêmement clairs, qui n'étaient plus des schémas artistiques, mais des schémas, je dirais, des vrais schémas.
Scientifiques.
Oui, c'est-à-dire une interprétation pour qu'elle soit accessible aux étudiants, avec aussi le vocabulaire y afférent. Et il crée tout un vocabulaire pour décrire l'anatomie, parce qu'il dit sans vocabulaire, que puis-je décrire que des choses fausses ? Et il se révolte contre tous ceux qui l'avaient précédé, non pas les meilleurs, mais beaucoup d'anatomistes qui étaient très flous dans leur méthode de dissection, dans l'imprécision qu'il y avait de leur schéma, de leur description, et lui fait une véritable révolution. D'ailleurs, c'est une œuvre qui est en cours de réédition par M. Mandressi, et j'espère qu'un jour, elle sera à notre portée, car c'est une œuvre considérable.
Une œuvre considérable. On a toute la liste à la fin de l'ouvrage, de ce qu'il a écrit, de ses traités d'anatomie, de ses discours, de ses mémoires. On va probablement en reparler. Vous parliez du vocabulaire. Il était effectivement très attaché au principe de la langue claire et très sensible aussi à l'écriture.
Grand
orateur, vous aviez évoqué ça tout à l'heure. Mais je crois qu'il avait le même soin à écrire,
à la rédaction. Quand on lit ses rapports, ils sont d'une grande clarté, avec une précision des termes, une logique parfaite. Enfin, c'était un monsieur qui, en plus, était un énorme travailleur.
Quel plaisir avez-vous eu à lire ça ?
D'abord,
sa
beaucoup
prose.
De plaisir à le fréquenter, parce que je trouve que c'est toujours très intéressant de rencontrer une vocation. C'est formidable de pouvoir vivre, côtoyer un homme dont on suit le fil de sa pensée et de dire où il va. Et même, si vous voulez, moi-même, je m'engage dans l'écriture parce que j'en fais un pré-évolutionniste, un pré-lamarckien, un pré-darwinien. Il n'a pas eu l'intuition, je dirais, qu'ont eu les autres, c'est-à-dire cette idée qui soudain rassemble son travail. Mais le matériel qu'il avait laissé aux autres, déjà, nous laissait pressentir que s'il avait vécu, cet homme, s'il avait vécu, car il est mort très jeune, s'il avait vécu au temps du directoire de l'Empire, il serait devenu un des grands d'Empire et probablement il aurait à son compte énormément de travaux et de découvertes que les autres, finalement, ont glanées.
Sur le plan scientifique, il a beaucoup apporté aussi dans la lutte contre les épisodes les hypoties et les épidémies. Alors ça, c'est un épisode important parce que dans sa carrière, pour lui et puis pour le pays.
Oui, et ce qui est intéressant, c'est de remarquer qu'on lui a fait une confiance inouïe. Alors si on imagine ce qu'était la confiance du Premier ministre de l'époque, c'est-à-dire Turgot, donc du roi, à un jeune homme de 24 ans, 25 ans, de l'Académie des sciences.
Une époque différente, hein, on rentrait à l'Académie
fort jeune. Oui, très jeune, très jeune, mais à une époque différente. N'empêche que ses camarades, enfin ses amis, ses confrères, qui étaient Malesherbes, qui travaillaient avec Turgot, qui étaient Condorcet, conseiller de Turgot, tous ces gens qui étaient à côté de lui, se sont dit, ce garçon est tout de même qualifié pour prendre la responsabilité d'une commission chargée d'éradiquer une épisodie dramatique qui ruinait tout le sud-ouest de la France.
Alors il part
pendant 2 ans. Il étudie d'abord tout ce qu'il peut trouver sur le sujet et il va édicter des règles qui sont tout à fait logiques sans avoir connaissance de ce qu'étaient les miasmes.
Vous parlez d'un modèle de rigueur.
De rigueur. Il a imaginé la contagion. Enfin, tout le monde savait ce qu'était la contagion. On le savait depuis longtemps, mais par des miasmes qui existaient, dont il n'avait pas la possibilité de découvrir, je dirais, la nature. Mais il prend les méthodes qu'il faut pour arrêter la diffusion de cette maladie, c'est-à-dire comment tuer le bétail qui est contaminé, comment l'isoler le bétail, comment traiter les cuirs du bétail pour qu'il ne soit pas contaminé, pour qu'il ne soit pas contagieux, et comment imaginer, au travers de l'opposition des paysans,
ah oui, ça m'a beaucoup surpris, ça.
Je dirais une manière de compenser cette perte par des attributions par le gouvernement de dotations qui réparent leur cheptel, etc. C'était quand même aller très loin parce qu'il y avait la troupe avec lui. Quand on tuait tous les bestiaux, les paysans, ils étaient furieux. Et à ce moment-là, il y a eu, je dirais, compensation de ce préjudice et tout a été examiné. En 2 ans, tout était réglé.
Ah, il a voyagé dans toutes les parties.
Oui, dans toutes les parties où il y avait. Et il a été là un travailleur absolument extraordinaire. Il est rentré triomphateur.
Oui, et d'ailleurs, il a été récompensé.
Et comme il n'avait pas les deux pieds dans le même sabot, il s'est dit, je vais en profiter. Et il va se faire attribuer la création de la Société royale de médecine avec son ami Lassonne. Lassonne était le médecin de Louis XVI, peut-être pas encore tout à fait à l'époque, mais enfin, il était à la cour. Et avec Lassonne, qui devient président de la Société royale de médecine, lui en devient le secrétaire perpétuel unique et définitif, puisqu'il y sera jusqu'à 1793, à
date de la dissolution
de la Société royale de médecine. Et là, il y déploie, mais encore sa vision, une vision de santé publique. Dans un pays, il a vécu l'épizootie. Pourquoi l'épizootie? Pourquoi les variations climatiques? Pourquoi les épidémies chez les enfants? Pourquoi le tétanos? Pourquoi les charlatans? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Pourquoi les remèdes inutiles? Il fait vraiment un travail formidable. Il réunit autour de lui de grands savants, hein, des Lavoisier, mais aussi Benjamin. Tous les grands personnages qu'il pouvait connaître, il les agglutine à la Société royale. Et en plus, il prend des relais avec tous les médecins de province.
C'est auxquels... la condition de...
Non seulement ces médecins, il les sollicite, mais il leur impose des règles, des tableaux, des dates, une manière de faire. Et il rencontre à l'État, ce qui est la première chose, première tentative de lier la médecine à la santé à l'État. Il lit ses résultats à l'État, aux décisions de cet État, ainsi le déplacement des cimetières, ainsi ceci, pour l'hygiène des villes. Il met tout ça en place.
Donc c'est le début de la mise en place d'une politique de santé, voilà. On dirait publique, mais à l'époque, pour le royaume.
C'est vraiment une révolution. Et il faut dire qu'il impose ses idées, lesquelles idées auraient dû naître de la faculté, laquelle faculté s'en offense, parce que finalement, il a le privilège de l'invention, de la reconnaissance, de la notoriété, et il y a une bataille atroce entre ceux qu'on appelle les facultaires contre les sociétaires, ceux qui appartiennent à la Société royale de médecine, et une bataille qui se solde par, je dirais, des procès.
Oui, pécheurs d'ailleurs, ouais, ces jalousies.
Et, oui, voilà. Des procès, la faculté les perd, mais Vic d'Azyr en sort, je dirais, insulté, l'objet de pamphlets qui auraient pu ruiner à jamais sa carrière. Et dans cet épisode, il a une grande dignité, une très grande dignité, il ne répond pas aux insultes et il va en sortir vainqueur. À cette époque, il est aussi professeur, bien entendu. Il a réintégré tout de même la faculté et il a obtenu la maison Alfort comme chaire d'anatomie.
Il continue à se passionner pour l'anatomie
bien
comparée,
oui, bien sûr.
Pour les poissons.
Oui, j'ai découvert tout ça. Bien sûr.
Et effectivement, il continue cette carrière de professeur,
oui.
De chercheur. Et comment rentre-t-il alors au service du roi?
Pendant toute cette période, jusqu'en 1788, il va être professeur. Alors, il a plusieurs métiers. Il est professeur à l'école vétérinaire d'Alfort, ce qu'il adore.
Pendant des années,
jusqu'en 88, je crois. Là, il soigne quand même des malades. Il est bien placé en cours. Il soigne les grands personnages.
Là, il est respecté. Il a son espace.
Il est plus que respecté. Là, il est honoré. Et c'est un potentat. Et il est à l'encyclopédie.
Oui,
Il fait un énorme travail d'encyclopédiste, un énorme travail d'anatomiste. C'est un homme, moi je me demande comment passait-il ses jours. Alors, on dit qu'il était veuf d'une jeune femme, de la nièce de Daubenton, qui était le bras droit de Buffon. On dit qu'il était veuf. En fait, j'ai découvert qu'il avait des dames et probablement qu'il avait aussi une vie mondaine. Et d'ailleurs, il la partage avec beaucoup de gens que je cite dans ce livre. Et il avait une vie très, très mondaine. Il connaissait tous les grands de ce monde. Il a donc une vie absolument formidable et des ambitions encore plus grandes. Et l'une d'entre elles, c'est l'Académie française. Alors, probablement que là, vraiment tous ceux qui ont écrit ces éloges ont laissé entendre que l'Académie française l'avait sollicité. En fait, j'ai fait des études dans les archives de l'Académie française. Il a voulu, il s'est accroché, il a été battu deux fois avant d'être élu.
Il n'a pas été élu immédiatement.
Non, pas mieux. Et il a vécu des épisodes qui ne sont pas très, très glorieux.
Il a eu un premier échec avec le chevalier de Florian.
Voilà.
Racontez une belle anecdote quand vous le citez là. Monsieur Vic d'Azyr, mon rival, qui n'est point traducteur d'Homère, comme vous le dites, mais qui a peut-être plus tué de monde qu'on en voit mourir dans Homère, car il est médecin.
Voilà, exactement. Et aussi, on l'accuse d'avoir une clientèle à la cour de dames qui ont des vapeurs, etc., mais que finalement, ça rapporte beaucoup de voix pour l'Académie. En fait, il sera refusé deux fois. Et la troisième fois, il est élu. Je pense que là, c'est parce que ses amis étaient aussi à l'Académie française. Hein. Condorcet l'était, enfin, il y avait Bailly, ils étaient tous à l'Académie française. Il a eu beaucoup d'amis de l'Académie des sciences qui l'ont probablement porté à l'Académie française, à la suite, au fauteuil de Buffon.
Ça, c'est un très grand honneur.
Très grand honneur. Et il a fait un éloge magnifique de Buffon.
Magnifique. On trouve d'ailleurs sur le site internet de l'Académie française, c'est un très beau texte.
C'est un très beau texte. Hein. C'est magnifique. Et moi, à cette occasion, j'ai revisité Buffon. Qui était vraiment un homme extraordinaire. Alors, assez critiqué dans son temps, l'un des plus grands hommes du siècle, mais assez critiqué dans son temps parce qu'il alliait un peu l'art, la fantaisie, l'imagination à ses travaux scientifiques, mais c'était aussi un vrai visionnaire. Et le discours qu'en fait Vic d'Azyr est superbe. Et c'est là qu'on voit que c'était un grand orateur. Parce que quand on le compare à celui que faisait Condorcet à la même époque, parce que Buffon avait quitté l'Académie des sciences, était mort, on s'aperçoit que Condorcet était un homme scientifique, précis, carré, intelligent, mais pas très drôle. Alors que Vic d'Azyr avait une envolée lyrique et savait plaire au public. À chaque fois,
il était séducteur.
Très séducteur, très très séducteur. Hein. De même que à l'époque, l'été Fourcroy qu'on va retrouver dans sa vie, qui était lui médecin aussi et qui étant chimiste était aussi un grand orateur au Jardin des Plantes, lui, et aussi un grand séducteur. C'était des gens qui alliaient le talent oratoire à une beauté physique indiscutable et aussi à une présence qui en imposait beaucoup au public.
Marquons une courte pause et retrouvons Yves Pouliquen pour parler de Félix Vic d'Azyr, Les Lumières et la Révolution, publié chez Odile Jacob en septembre 2009. Que l'Académie française accueille aussi des médecins. Puis celui-là, oui. C'est le deuxième médecin.
Lorsque Richelieu a créé l'Académie française, dans la première compagnie qui s'est créée, il y avait un médecin, Curo-Lachambre, parce que Curo-Lachambre était déjà un homme qui avait une pensée médicale très étendue, avec une particulière attention à la psychologie, qui savait traiter des patients, etc., et qui avait été remarqué, qui était aussi dans tous les grands salons de l'époque. Enfin, c'était un homme mondain, en quelque sorte. Donc, il y en a eu deux. Il y a eu Curo-Lachambre et un autre dont j'ai oublié le nom, mais qui n'était pas médecin en réalité. Donc, le vrai second, c'est Vic-d'Azyr. Et on peut s'étonner qu'il y ait eu 150 ans. Sans médecin, on n'aurait plus pu ne plus retrouver de médecin à l'Académie française en réalité. Or, Vic-d'Azyr a renoué avec cette tradition de mettre un médecin, et avec quel talent, puisqu'il était un vrai amateur de la langue, un vrai, je dirais, orateur, et qu'il avait tout à fait sa place. Et à la suite, alors, se sont inscrits plusieurs médecins, puisqu'il y en a eu une dizaine de plus, et il n'y a eu que deux chirurgiens, c'est-à-dire Mondor et moi.
Alors, dans votre livre « Félix Vic-d'Azyr, les Lumières et la Révolution », on découvre aussi comment les académies, l'Académie française et l'Académie des sciences, et l'Académie, alors qui ne s'appelait pas encore l'Académie de médecine, mais la Société royale de médecine qui va être dissoute comme les autres académies royales, comment elles traversent cette période révolutionnaire, voilà. Un peu pas au jour le jour, mais disons année
Ce qui m'intéressait dans le personnage aussi, c'est que lorsque j'ai été élu à l'Académie française et que je me suis intéressé au passé des médecins, et que j'avais vu que Vic-d'Azyr était mort en 94, et au fond, ça posait une question, comment était-il mort? Et en réalité, Vic-d'Azyr, nous l'avons laissé en 1788. En 1788, Lassonne meurt, et Vic-d'Azyr est nommé médecin en premier de Marie-Antoinette.
Médecin en premier,
c'était son médecin particulier de Marie-Antoinette en 88, ce qui était un immense honneur. Il fréquentait déjà la cour de Versailles depuis longtemps, car ils sont toujours, la cour est toujours à Versailles, et il connaissait tout le monde. Et Lassonne, qui était son ami, son président, son maître en quelque sorte, l'a introduit auprès de Marie-Antoinette. Ce qui était important parce que le roi Louis XVI, théoriquement, aurait dû avoir aussi son médecin en premier. Et il a préféré avoir Lassonne. Et quand Vic-d'Azyr arrive, Vic-d'Azyr est au fond pour la première fois, ça ne se faisait pas, médecin à la fois de la reine et du roi. Et il va vivre avec eux tous les événements qui leur sont propres, c'est-à-dire les drames de la royauté et avant les états généraux, c'est-à-dire les maladies du dauphin, la mort du dauphin, etc. Et il va donc entrer en intimité, une intimité très relative, hein, parce que quand on est médecin des grands, on est tout de même un serviteur, certes un serviteur bien placé, mais on est quand même un serviteur. Et à Versailles, j'imagine que les habitudes qu'il avait étaient relativement distendues, enfin, ce n'était pas des relations très intimes. Et tout cela va s'accentuer à partir de la réunion des États généraux.
Est-ce qu'il nous a laissé des carnets ?
Non, on n'a rien. On n'a que des témoignages par les autres.
Vous faites vraiment revivre ces pensées.
J'essaie.
À travers tous ces événements, vous disséquez vraiment quelles ont
J'essaie d'abord de savoir qui il est par rapport à la révolution qui naît. Les États généraux, il est content ?
Au début, mais il est même favorable.
Oui, il est très favorable. Il se dit, ça va être pour moi l'occasion de placer mes idées. Voilà, enfin, on va réformer la médecine. Il propose déjà à la Constituante, en 90, les réformes médicales.
Alors ça, c'est vraiment extraordinaire. C'est aussi important que la politique de santé qui commençait.
Mais c'est magnifique. Et c'est Fourcroy qui, en 1804 ou 8, je ne sais plus, profitera de créer cette réforme et de l'université médicale, alors que c'est Vic-d'Azyr qui a tout écrit.
Donc Vic-d'Azyr, qu'est-ce qu'on lui doit exactement?
On lui doit l'Académie de médecine et on lui doit la réforme des études médicales.
Alors, j'ai vu que c'était des études en 6 ans.
Ah oui, mais c'était...
C'est quasiment parce qu'il y a aujourd'hui,
surtout,
mais surtout
l'honnêteté dans l'enseignement, c'est-à-dire des professeurs qui soient conscients, responsables, et non pas ces diplômes un peu attachés, de même qu'il va éliminer tous les charlatans. Non, c'était un puriste. Et là, la Révolution, ça lui plaît. Il est encyclopédiste, la Révolution arrive, il est attaché à la royauté, il souffre dès le départ de la violence. Et on sent chez lui qu'il a un attachement au couple royal et à la famille royale, un attachement d'ailleurs assez distant, mais qui lui permet d'imaginer, de concevoir qu'une monarchie constitutionnelle, finalement, ce serait l'idéal pour la France. Et je pense qu'il joue cette carte. Il joue cette carte au début avec, je dis, une distance. Et puis on sent dans les relations, parce que la reine en dit, parce que tout le monde en dit, par les documents que j'ai trouvés, oui, à droite, à gauche, on sent que tout à coup, il est impliqué à la fois dans l'atmosphère qui...
Dans
le cercle intime, qu'il est témoin de ce qui se passe, des événements ressentis au niveau du roi et de la reine. Et là, je suis sûr qu'il est favorable à certaines trahisons de la Révolution, parce qu'il ne pouvait pas ignorer Varenne. Il ne pouvait pas l'ignorer, Varenne, parce que je donne un certain nombre de points qui me laissent, parce qu'il était futé. Donc, il savait, tout le monde le disait, les salons où il était, on prévoyait le départ du roi la semaine prochaine, etc. Il était au courant. Et quand la reine lui demandait de faire telle ou telle chose, c'était pas innocent. Bon. Et après, Varenne, ce retour plein d'illusions, ou finalement qui fut une faute considérable, car on échappait à la monarchie constitutionnelle, déjà tout se tendait, et là, il va permettre même à la reine de communiquer avec les ambassades extérieures. Il va être, comme disait Couthon, il va jouer le double jeu en espérant que les choses s'arrangent. Je pense qu'il était un petit peu naïf vis-à-vis de l'évolution des choses. Et là, Couthon disait, il est le messager de la reine, c'est un traître. Et même Couthon a dit plus tard, il faut le raccourcir. Et là, il vit quand même jusqu'en septembre 92, c'est-à-dire la chute de la royauté, il vit quand même un peu dans l'utopie que ça s'arrangera.
Et léger aveuglement politique,
léger aveuglement,
mais,
oui.
Mais en même temps, il est tellement impliqué
oui,
que...
Oui, mais en plus, il continue, il est toujours à l'Académie des sciences, voilà, à l'Académie française,
Il fait les éloges,
oui, il continue, il travaille, il est partout. Et puis, peut-être aussi, les événements politiques eux-mêmes lui échappent-ils un peu, hein. Il serait un peu comme le savant qui, quand même, s'abstrait beaucoup de l'événement politique et ne soupçonne pas la gravité. Lorsqu'il y a les massacres de septembre...
Là, la prise de conscience, elle est radicale pour tout le monde.
Pour lui, il s'effondre. Il part à Valognes.
Il retourne dans le Cotentin.
Et là, il se dit, on va essayer de voir ce qui se passe. Et puis, je vais faire oublier que je suis le médecin de la reine.
Hein. Ça ne devait quand même pas être évident. Hein.
Non, ce n'était pas évident. D'autant plus qu'il apprend à Valognes le procès du roi. Alors là, il ne comprend plus. Il se dit, il se passe des choses. Et il apprend aussi... Bon, quand il revient, il apprend l'exécution du roi. Et là, il rentre dans un état de terreur abominable.
Il craint pour sa vie.
Oui, parce qu'il se dit, on va m'accuser. Ce n'est pas possible que j'échappe à cela. Et il revient parce qu'il est protégé par Fourcroy. Alors, Fourcroy, c'est un personnage. J'ai fait un cours la semaine dernière, enfin une conférence la semaine dernière à l'Académie de pharmacie sur cet exemple d'amitié exceptionnelle. Quand Vic d'Azyr était jeune, il était logé par M. Fourcroy, le père de notre héros actuel. Et à ce moment-là, Fourcroy, le père, ne pouvait plus payer les études de son fils. Et c'est Vic d'Azyr qui la lui a payé. Et c'était courageux, c'était avant sa première hémoptysie, c'est-à-dire qu'il avait 23-24 ans. Il avait déjà pris en charge les études de Fourcroy. Si bien que Fourcroy est devenu médecin grâce à Vic d'Azyr. Et lorsque Vic d'Azyr est affaibli par la chute de la royauté, par les soupçons que l'on porte à son endroit, Fourcroy le protège. Car Fourcroy, lui, est un vrai révolutionnaire. Il est ami de Robespierre. Il sera le suppléant de Marat lorsque celui-ci sera assassiné. Et c'est Fourcroy qui sait que, par probablement une correspondance que je n'ai pas eue entre les mains, qui sait qu'à Valognes, le Carpentier, qui est un conventionnel, veut livrer Vic d'Azyr à la Convention. Fourcroy doit recommander à un certain moment à Vic d'Azyr de revenir à Paris en disant « Je m'occupe de vous ». Et c'est vrai que Fourcroy va s'occuper de Vic d'Azyr. Il va l'impliquer dans des commissions d'art. Il va l'impliquer plus tard dans la récolte du salpêtre. Imaginons ce grand savant, ce grand anatomiste, ce génie, car c'est un génie, que l'on va réduire à commissaire à la collecte du salpêtre dans les caves des établissements parisiens pour faire de la poudre pour la Révolution. Et là, on voit un Vic d'Azyr totalement changé, totalement affaibli, capable d'illustrer, si vous voulez, les plus grands drames que l'on connaît dans les pays fascistes ou communistes, hein, quand on réduit les gens, quand on les humilie, hein, et quand on les menace de mort en permanence, car il est menacé de mort en permanence.
Oui, et puis c'est la terreur.
C'est la... Et alors, nous sommes en 93.
Il est à la merci de n'importe quel tribunal.
Et il apprend, il se dit, on ne va tout de même pas tuer la reine. Et il apprend qu'on va juger la reine. Et si on juge la reine, alors là, Varenne, le messager que je suis, va être condamné. Et en réalité, il est protégé. Et manifestement, il est protégé par Fourcroy, Robespierre ou les conventionnels, parce qu'on ne lui fait aucun reproche. Et Bailly, qui lui-même n'avait
rien à voir...
Alors
d'autres vont mourir sur l'échafaud.
Et Bailly va mourir. Et Bailly va mourir. Et je suis sûr que Vic d'Azyr, à ce moment-là, dit « Bailly, guillotiné à ma place ». Car en fait, le vrai responsable de la trahison, c'est moi, c'est pas Bailly. Bailly, lui, était pour rien dans les histoires de la reine. Même, il ne la connaissait pas, la reine. Et là, il s'effondre. Et on a des témoignages absolument terribles où on décrit un homme totalement figé, n'osant plus sortir, travaillant selon ce qu'on lui dit de faire. Il est totalement soumis à Fourcroy, lequel Fourcroy n'est pas non plus dans une position toujours stable. Et on voit un Vic d'Azyr qui s'altère, et probablement aussi du fait qu'une tuberculose ancienne...
Oui, qu'il avait déjà eue dans sa jeunesse.
Le réhabite, se réanime, surtout dans les conditions où il vivait. Et dans la terreur à laquelle il était. Et là, c'est une période extrêmement pénible, car on revoit cet homme qui fut si grand, qui non seulement récolte le salpêtre, mais va mettre tout son talent à recueillir le salpêtre et à être un staccanoviste, si l'on peut dire, de la récolte du salpêtre. Il va transformer Saint-Germain-l'Auxerrois en une usine à poudre. Il va améliorer la production, la qualité de la poudre, et il va, ne perdant pas le Nord, écrire à Couthon, son ennemi, des lettres absolument formidables en disant « J'ai pu récolter 1400 tonnes de machin, etc. Et je suis là au service de votre comité de salut public. Et je suis là prêt à bourrer nos canons de la poudre qui va tuer tous ces ennemis et à décapiter tous ces... Enfin, » là, c'est vraiment une lâcheté absolue. Et c'est assez pénible. Et Sainte-Beuve, même, qui a retrouvé ces lettres, disait que c'était tout de même l'image de ce à quoi pouvait conduire la terreur chez un homme pourtant pourvu de plein de qualités. Et c'est donc une période extrêmement pénible où on voit un autre personnage et qui sauve sa peau.
Deux siècles vous séparent, mais vous avez quelques points communs.
Oh, je ne sais pas, je n'oserais pas dire.
Je crois que vous êtes originaire aussi du Cotentin.
Pas du Cotentin, mais de la Manche.
De la Manche, pardon.
Oui, la Manche, oui.
Vous avez cet attachement aussi à la langue, à l'écriture. Vous aimez beaucoup l'histoire, monsieur Pouliquen. Comment est née cette passion pour l'histoire en dehors de vos études de médecine ?
Moi, je suis un écolier depuis que je suis né. Voilà, c'est ma définition. Moi, j'aime beaucoup l'histoire. Et je trouve que les vies achevées ont toujours un parfum intéressant de savoir qui nous permet de... Finalement, c'est aussi une manière de jouer avec le temps. De se dire que dans l'exemple des autres, il est intéressant de retrouver des sentiments, des épreuves. Et c'est aussi, je dirais, un regard un peu attristé sur le destin des hommes, qui est vraiment, c'est un peu mon sentiment, c'est que les hommes sont jetés sur cette terre sans qu'on leur demande leur avis et que j'aime bien savoir comment ils se débrouillent. Et je pense que ceux qui arrivent à dominer la vie comme Daviel que j'avais prise, comme Madame de Sévigné, qui est une splendeur, que j'adore, qui est une amie que je regrette d'avoir quittée, mais c'est vers laquelle je reviens toujours, ou Vic d'Azyr, sont, comme plein d'autres, illustrent finalement la façon dont on peut intelligemment être un homme et servir les autres. Voilà.
Est-ce que vous êtes retrouvé dans Vic d'Azyr, dans les expériences que vous avez eues, parfois en étant obligé d'aller soigner, je pense à votre livre et à votre témoignage sur le dictateur albanais que vous aviez été soigné. Dans quelle position on est dans ces cas-là ?
Non, alors c'est, non, si vous voulez, je pense que les expériences que j'ai eues, j'ai eu la chance de soigner beaucoup, beaucoup de personnalités et pas mal de chefs d'État. Ça m'a permis, si vous voulez, d'imaginer, par exemple, ce qu'était Daviel avec des chefs d'État, ce qu'était Philippe d'Azyr avec Louis XVI, parce que le rapport que l'on a en tant que serviteur de grand de ce monde est un rapport très singulier, fait à la fois de confiance de la part de celui qu'on sert et aussi de distance. C'est une relation très subtile et très exquise. J'ai essayé de l'exprimer avec M. Enverrochat, parce que M. Enverrochat avait deux faces. Il avait, d'une part, cette distinction des érudits amoureux de la langue française et aussi de la poésie, de la littérature française, et aussi cette autre face d'un homme dont la croyance était redoutable, puisqu'il l'imposait par la force et par le crime. Hein. Et je trouve que d'être placé dans ces conditions comme un personnage qui n'est pas dépendant de lui, qui est extérieur à son système, qui est donc un observateur auquel on fait confiance, est tout de même une situation très singulière. Et que d'en profiter, c'est pour ça que j'ai relaté 30 ans après ce rapport singulier, parce que c'est un fait d'histoire.
Oui, vous l'avez, voilà. C'est dans le livre « Le médecin et le dictateur » aussi, chez Odile Jacob, publié l'an dernier. Oui, vous êtes... avec Félix Vigdazir, quand même, exemples.
Pour être tout à fait simple et modeste, Vigdazir est un homme, je crois, dont l'envergure de la vision était infiniment plus grande, plus vaste que ce que j'ai pu avoir dans mon existence. Bon, simplement, son parcours a quelques analogies avec le mien. Nous sommes nés exactement du même endroit. Nous avons tous les deux fait une carrière, au fond, qui nous a permis de franchir beaucoup d'étapes et aussi d'être confrontés à plusieurs situations qui, finalement, tissent une assez grande vie.
Alors, comment Félix Vigdazir survit à la période de la Terreur ?
Eh bien, il y survit très, très mal.
Il est tombé malade, vous
Non, là, oui, il est de plus en plus malade. Et même, à un certain moment, il dit à ses amis, un mois avant sa mort, il dit, écoutez, c'est fini, je vais mourir. Et alors, là, je me suis interrogé sur ça. Car il est toujours, tout de même, quoique protégé par Fourcroix, tous ses amis meurent. Malesherbes est guillotiné, Lavoisier est guillotiné, son ami Condorcet, il va... provoquer sa mort en voulant le sauver. Condorcet est abrité depuis 18 mois rue Servandonis par une logeuse sans sortir. Il était condamné à mort et qui était au début une sentence non exécutable si on l'arrêtait, mais qui devient exécutable à partir d'un certain moment. Si on l'arrêtait, on le guillotinait tout de suite. Et Vigdazir, qui collecte le salpêtre partout, fait prévenir Condorcet qu'on va passer chez lui et qu'il est avec des commissaires du peuple et que les commissaires du peuple ne le rateront pas si on le trouve. Et sa logeuse dit à Condorcet, on va s'arranger pour qu'on ne vous voie pas, mais Condorcet a peur, il s'en va. Il s'en va et il va mourir. Il va mourir, on dit qu'il va se suicider d'un poison que lui aurait donné Cabanis, lequel poison aurait été partagé par, c'est intéressant, par Condorcet, par Vigdazir et par Bonaparte. Et je ne sais pas s'il est mort empoisonné, car sa mort ne traduit pas un empoisonnement. Est-ce que c'est un second accident vasculaire cérébral, comme Condorcet en avait déjà fait un quelques mois auparavant ? C'est plus probable. En tout cas, Condorcet meurt. Et tous ces morts cernent Vigdazir qui se dit « eux meurent et moi, et moi, et moi ». Alors que beaucoup de ses petits amis et confrères sont déjà partis dispersés dans la campagne. Lui, il est toujours là, toujours là. Et il est malade, manifestement. Et tout va se terminer avec la fête de l'être suprême. Car là, Fourcroy lui dit, à ta section du Jardin des Plantes, il faut être présent. Et il assiste toute la journée par une journée de canicule en juin, le 8 juin, je crois, 1794. Il assiste toute la journée, il rentre le soir, il est très malade. Et de cet épisode, il va se relever 2-3 jours, mais il va sombrer dans un état de fièvre, de pneumonie, d'arthrose, comme on disait à l'époque, en fait, d'une rechute finale de tuberculose probable. Et il va mourir dans un état de délire. Il est guillotiné mentalement, car il vit sur l'échafaud, il voit Bailly monter, il voit l'échafaud couper les têtes, il hurle en permanence, on ne peut pas le calmer, on n'en avait pas les moyens, et il va s'éteindre le 20 juin 1794, alors que le même jour, à peu près 60 têtes sont tombées sous la guillotine. Voilà, la fin est, je ne sais pas où il est enterré, je n'ai pas retrouvé sa tombe, c'est là qu'on découvre à l'inventaire qu'il y a des femmes qui s'occupent de lui. Il est possible qu'il ait une fille illégitime.
Oui, là, ce sont des questions. Reconstituer le pulse voilà, c'est intime.
Intime, voilà, de Vigdazir, car sa vie
dans
privée.
Les dernières pages.
Car sa vie privée était très difficile à cerner. J'en ai pas de preuves. Je sais que son père a survécu 3 ans. Mais les archives de la Manche sont très, très, très sèches sur ce plan-là. Je n'ai pas pu déterminer où était la tombe de Vigdazir. Alors, où étaient les tombes ? Où était l'état civil ces jours-là ?
Il a conservé un brin de mystère.
Un brin de mystère, il faut bien que les autres ensuite retrouvent encore matière à parler de Vigdazir plus tard.
Merci Fouliquin d'avoir rendu justice à Félix Vic d'Azyr en rappelant ce que nous lui devons aujourd'hui. Merci d'avoir fait revivre pour notre entretien cette figure illustre de la médecine et d'avoir pointé de temps en temps à la fois le philosophe et puis l'homme déchu sous l'anatomiste au fil des pages de cette biographie. En tout cas, vous l'avez examiné à la loupe, vous avez analysé tout de lui avec la finesse et le tranchant du scalpel. Merci.
C'est moi qui vous remercie.